liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 36, année 2015. Salut Manu.
Salut Luc, de retour après ses vacances.
Oui, c'est la rentrée, et donc on est reparti sur la revue de presse que tu nous as concoctée.
Et oui, du logiciel libre, plein de logiciels libres. Un article qui va nous parler de POC 21 et Fab Lab.
Comment ? On parlait que de ça avant les vacances.
Et oui, ben ça continue, mais pour la bonne cause. Office, et d'un point de vue économique, la Suisse et le vote électronique, la surveillance au Conseil d'État, l'open data, les ministères et leurs dépenses en logiciel. Et pour finir, un petit truc sur le brevet logiciel entre Free et Orange, avec des bonnes nouvelles.
TV5 Monde, climat dans un château des Yvelines, un Fab Lab cogite pour un monde plus durable, un article de Nathalie Alonso. Ils ont un super plan de com' parce que c'est revenu dans la revue de presse un paquet de fois avant les vacances.
Ils sont attaqués.
On a dû en parler pendant l'été aussi. Et donc voilà, c'est l'idée de faire des... De quoi d'ailleurs ?
De montrer un petit peu de l'innovation, globalement, avec des bonnes idées, des idées nouvelles.
Orienté vers le climat quand même.
Sur le climat, carrément, mais tout ça de manière ouverte. C'est de l'innovation. Je crois qu'il y a un autre article où ils en parlent. Il y a un tracteur vélo, oui monsieur, un tracteur vélo, et il présente ça comme étant quelque chose d'un peu nouveau, hein, clairement, et d'intéressant à envisager, à tester, moins cher et plus durable dans son mécanisme et dans le fait qu'on puisse le réparer plus facilement, des choses comme ça.
Alors l'intérêt de l'article par rapport à ce qu'on a pu voir avant, c'est que l'événement s'est passé, enfin c'était plusieurs mois de boulot, en gros c'était une sorte de résidence d'innovation.
Alors cet événement-là est passé, voilà, c'est la préparation en quelque sorte.
Tout à fait, donc on sait un peu plus comment ça fonctionnait, l'article nous parle de ça, c'est rigolo. L'autre chose, c'est que si c'est dans la revue de presse, c'est que tout ça est en libre, bien sûr.
Et oui, hein, on diffuse et on sait qu'on s'appuie sur des connaissances qu'on va reprendre, on va les améliorer. Et donc, tout le monde est encouragé à aller jeter un œil là-dedans, à contribuer, parce qu'il y en aura sûrement d'autres qui vont se refaire
alors,
derrière.
On peut visiter cet endroit en septembre, le 19 et 20 septembre. Il faut s'inscrire. C'est dans les Yvelines, donc en région parisienne. Hein, il faut être dans le coin quand même.
Et ensuite, ils vont se déplacer un petit peu partout en France. Et je ne sais plus s'ils vont aller en Navarre. Mais en tout cas, il va y avoir des présentations un petit peu de ces sujets-là. Ils vont être à Paris notamment.
C'est
très loin.
C'est Navarre, mais bon,
c'est très, très loin.
Silicone.fr, Office 365 moins cher qu'une suite bureautique en open source, point d'interrogation, par Jacques Chemina. J'adore les articles avec un point d'interrogation parce que c'est vraiment le truc à troll, tu vois, c'est le genre...
Ah ben ça, tu le sais.
Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas totalement affirmé, comme ça je ne me mouille pas trop.
C'est un article troll, mais c'est un article troll qui parle de trucs qui ne nous font pas forcément plaisir, de gens qui se plaignent de logiciels libres utilisés dans des mairies, sans que c'est dans une mairie, hein, où ils ont mesuré le temps perdu parce que c'est un logiciel qui n'est pas maîtrisé, soi-disant 15 minutes par jour et par employé, et toute cette mesure montrerait que ça coûte plus cher au final.
Voilà, donc c'est le cas d'une mairie italienne qui était passée à OpenOffice.
Et on était contents.
Et qui a fait marche arrière pour Office 365, donc qui est la version hébergée de Microsoft Office, hein, auquel on accède par Internet. Et où en fait on s'abonne, les boîtes s'abonnent, payent un abonnement régulier à tout ça. C'est un vieux cheval de bataille, hein, puisque ça fait très longtemps que Microsoft dit qu'il faut voir le total cost of ownership.
Ouais, le TCO, c'est une bonne blague, mais en général, ça parle pas mal aux différents directeurs informatiques, aux gens qui gèrent les cantons de la bourse, parce qu'eux, ils croient comprendre que ça coûtera moins cher à long terme.
Voilà, donc l'article précise quand même que l'analyse est critiquée, notamment parce que quand on dit il n'y a pas besoin d'apprendre, ça veut dire que les gens ont déjà appris par le passé, donc ce coût-là, c'est un coût de démarrage, et ça ne veut pas dire qu'il va être là dans la durée.
Et c'est souvent une blague, hein, parce qu'Office 365, très certainement, il y a besoin d'apprendre plein de choses, des nouveaux usages, des fonctionnalités qui ne sont pas là, qui ont
et
été déplacées.
Et à chaque fois, il y a des nouvelles versions, quand ils ont fait le coup des bandeaux,
hein.
Les gens étaient perdus.
Ah, ils souffrent, les gars, à chaque fois.
Donc voilà. Et il rappelle également qu'une grosse partie des gens utilisent une quantité de fonctions extrêmement faible dans la bureautique, et qu'au final, c'est pas des formations si lourdes que ça.
Franchement, le coût des 15 minutes par jour perdu par employé, j'y crois pas. Je pense que ça mériterait d'être remesuré.
Et après, il y a des choses, hein, sur lesquelles Microsoft Office, qui reste un logiciel quand même...
Ah, il est bien, voilà, il est bien il fait. Est... Hein,
il voilà, est mais il y a des choses sur lesquelles il est complètement la ramasse, notamment quand on veut éditer des fichiers CSV, très légèrement techniques, mais qui dépassent, hein, qui ne touchent pas que les informaticiens. C'est l'enfer pour trouver les bons séparateurs. Excel ne sait pas gérer les horaires négatifs aussi, par exemple.
Ah, mais quelle idée.
Voilà. Mais il y a quand même des choses.
Il y a
où,
des limitations, clairement. Mais... Et puis là, il faudrait pas qu'il garde OpenOffice. Il faudrait peut-être qu'il passe à LibreOffice aussi, qui est plus
progressé,
neuf. Qui
la version 5 vient juste de sortir, oui. Et elle est jolie et a beaucoup progressé. Numérama, la Suisse pourrait imposer l'open source pour le vote électronique, un article de Guillaume Champeau.
D'où on découvre que la Suisse, les chantres de la démocratie directe, eh bien, ils aiment la démocratie par Internet, par vote électronique.
Ça tombe tout le sens, c'est qu'à partir du moment où on a un système de vote, il faut qu'il soit transparent, maîtrisé, et donc on ne peut pas s'appuyer sur un fournisseur externe opaque.
Alors ça, c'est ça. Le minimum. Ouais. Et du logiciel libre, ça nous paraît, nous, d'une nécessité, mais claire. Le problème, c'est que c'est pas suffisant. Hein. On en parle à l'April régulièrement. Ça fait partie de nos positions. C'est que le vote électronique, que ce soit sur du logiciel libre ou pas sur du logiciel libre, le logiciel libre va améliorer la chose, mais de toute manière, on n'aura jamais quelque chose qui soit fiable ou on aura quelque chose qui ne sera pas anonyme.
Alors là, il parle quand même des solutions. Effectivement, c'est très important pour la confiance dans le scrutin. Aujourd'hui, quand on va voter dans une urne en plastique transparent, tout le monde est capable de comprendre ce qui se passe, de suivre le scrutin, de voir les enveloppes circuler, etc.
Ouais, c'est la vérifiabilité.
Tout à fait. Et donc, tout le monde peut comprendre. Dès lors que c'est technique, le nombre de gens qui peuvent comprendre, même si c'est ouvert, est déjà très limité. Et là, bon, il parle quand même de systèmes où les gens peuvent revérifier derrière avec des codes si leur vote est le bon vote qui a été pris en compte, etc.
C'est pas si mal, hein. C'est mieux, en tout cas. Mais c'est pas suffisant. En tout cas, bah, c'est fun parce que bah, parler de logiciel libre, même si c'est dans un contexte où on n'apprécie pas forcément, c'est quand même une étape.
Mais ça pose quand même cette question que même si le système de vote par Internet n'est pas parfait, le faire en logiciel libre, c'est juste complètement suicidaire. Il y a des exemples.
Nécessairement, c'est une erreur.
En Amérique du Sud, d'un journaliste, pas c'est un journaliste, en tout cas, quelqu'un qui a fait émerger un problème sur un système de vote électronique et qui s'est retrouvé condamné, etc.
Parce que c'était des propriétaires.
Oui, c'était des propriétaires, et puis qu'en gros, il fallait pas qu'il en parle. Donc bon, ça devient tout de suite très dangereux.
C'est fermé, c'est opaque, ouais. C'est contrôlé par quelqu'un d'autre, il faut pas.
Le Monde.fr, la bataille contre la surveillance s'intensifie devant le Conseil d'État, un article de Martin Untersinger.
Alors bah là, c'était le gros dossier de l'année dernière scolaire, hein. C'est la surveillance, les lois françaises liberticides qui nous font mal au cœur, et là, eh bien, il y a des gens qui... Ah bah ça nous fait mal partout. Il y a des gens bien, qu'on apprécie et qui essayent de nous défendre, comme ils peuvent. Donc là, c'est devant le Conseil d'État, c'est des associations.
Donc la Quadrature du Net, qu'on connaît très bien, travaille avec eux très régulièrement. French Data Network, qui est un fournisseur d'accès associatif fait également ce genre d'activité. Et la Fédération FDN, hein, qui est au-dessus et qui fédère ce genre d'association, ouais, on les connaît bien aussi. Et ils avaient déjà attaqué la loi de surveillance devant le Conseil d'État.
Ils avaient posé aussi des aides pour que la Cour constitutionnelle voit un petit peu, analyse un petit peu mieux la situation.
Voilà, ils avaient également attaqué d'autres sujets, hein, pas que sur cette loi-là. Et en tout cas, ils font un gros travail juridique. Il y a eu des liens, notamment grâce à cette loi, en marge de cette loi sur la surveillance, comme il y a pas mal de syndicats.
Magistrature, hein.
Des magistrats, etc. Mmh. Ça a permis, au cours des toutes petites manifs qu'il y a eu, de nouer des liens. Et aujourd'hui...
Et ça, c'est fou comme lien. Franchement, voilà. Dire que les juges peuvent être amis avec ce qui n'est rien d'autre que des bandes de pirates.
Il y avait des avocats, des choses comme ça, des bandes de pirates.
Si, monsieur. Ah.
Ouais, comme tu y vas.
Et donc là, c'est des gens bien qui agissent, qui ont levé des amitiés avec des groupes qui avaient des points communs. Et on reconnaît tout ça. Les droits de l'homme, par exemple. Il y a des gens qui défendent les droits de l'homme et qui se retrouvent dans ces combats-là contre l'état de la surveillance, l'état de surveillance. Donc, du bon travail, bon.
Donc là, c'est la suite, hein, puisque les premières actions devant le Conseil constitutionnel ont quasiment été toutes rejetées. C'était d'ailleurs la très très grosse déception, parce que vraiment, les gens y croyaient. Et donc là, les quelques possibilités d'action qui sont à disposition, elles sont également exploitées pour essayer d'en tirer un maximum.
C'est chaud, hein.
Mais c'est important de ne pas lâcher le morceau, quoi. Capcom, comprendre l'open data, passage obligé, un article de Anne Revol.
Alors franchement, j'ai trouvé l'article génial. Je sais pas toi, parce que toi tu...
Il est un petit peu ennuyé, moi.
Ah bah il est un petit peu long, quelque part, mais il reprend ce que c'est que l'open data, et il explique pourquoi c'est intéressant.
Vraiment du point de vue des collectivités.
C'est ça, et le fait que les collectivités doivent, c'est une nécessité, je sais pas si c'est un règlement ou c'est une loi, mais doivent mettre leurs données ouvertes sur Internet. Il y a plusieurs niveaux d'ouverture, il y a plusieurs mécanismes et plusieurs moyens pour le faire. Moi, ça m'a fait découvrir des choses. C'est pas mal, honnêtement.
Alors, en fait, c'est vrai que c'est un article un peu aride, disons, mais il a cet avantage de parler vraiment de sujets très précis. C'est pas un truc général. Il parle vraiment de comment ça marche pour une collectivité, à quoi ça engage, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, combien ça coûte.
Les niveaux d'open data qu'on peut faire.
Combien de temps ça prend, etc. Voilà.
Comment on peut les diffuser. Donc, est-ce qu'on fait ça sur son propre portail? Oui, on peut le faire, mais on peut aussi le faire sur le portail du gouvernement ou sur le portail d'une autre collectivité. Ben, vraiment des choses intéressantes. Moi, je kiffe. Hein,
c'est un article à recommander à quelqu'un qui travaillerait dans une collectivité ou un élu et qui connaît pas trop le sujet pour rentrer un peu dans le truc et avoir une
sachant que tout ça cible vraiment, les citoyens, c'est les données de l'État qui sont faites en autre nom à un moment donné. Moi je trouve ça indispensable et la France, on est un leader mondial dans ce domaine-là, il semblerait. On est vraiment au taquet et je crois même qu'on est président d'une commission Open Data Monde. Oui, c'était une blague à l'époque, mais ça n'empêche, on est vraiment pas mal.
Next Impact, les ministères, encore une fois, priaient de dévoiler leurs dépenses en logiciel. Un article de Xavier Bern. Donc, c'est Isabelle Attard, la fabuleuse Isabelle Attard, qui...
Tu l'aimes bien. Hein.
Voilà, depuis... C'est la troisième fois. Tous les ans, elle harcèle les ministères pour connaître les dépenses, et notamment quelle est la part en logiciel libre.
Alors, ça devient un marronnier, honnêtement, parce qu'on revoit le sujet, et donc j'aurais pas pensé qu'on pouvait dire ça. Ça devient un marronnier, mais c'est qu'elle lâche pas l'affaire, effectivement. Elle veut savoir combien ça coûte les logiciels propriétaires, et est-ce que les ministères, est-ce que les administrations se mettent au logiciel libre, comme ça a été demandé. Circulaire héros, hein, c'est pas nouveau. Est-ce que tout le monde s'y met? Est-ce que tout le monde avance? Et ben, les ministères, ils traînent des pieds.
Faire ça tous les ans, ça permet aussi de comparer les chiffres d'une année sur l'autre, donc c'est pas inintéressant.
Pour les ministères qui donnent leurs chiffres.
Donc voilà, donc sachant que la deuxième fois, il y en a un certain nombre qui n'ont rien donné. La DISIC, qui a pris des positions en faveur du logiciel libre.
Hein, donc c'est un regroupement d'administration, il me semble.
Non, c'est, en gros, c'est la direction, oui, enfin c'est la DSI de l'État, hein, c'est là où ils chapeautent tous les ministères au niveau de
l'informatique, et Internet.
Explique que c'est très difficile de répondre à la question, parce que autant ils savent combien ils payent en licence sur du logiciel propriétaire, mais quand ils ont un logiciel libre avec des contributeurs ou des gens qui travaillent dessus pour l'adapter, le déployer, former les gens, etc., c'est beaucoup plus compliqué de faire ça parce qu'ils n'ont pas de comptabilité analytique ou un truc équivalent.
Ah bah c'est chaud. Hein.
Et que du coup ils disent la question, on ne sait pas vraiment y répondre.
Alors sachant qu'elle demande en plus, est-ce que l'État reverse du code source, participe et contribue à du logiciel libre? Moi c'est génial, c'est des bonnes questions et ça va peut-être rentrer dans la tête de nos élus, dans la tête des administrations, ouais. Que tout ça c'est bien.
Ce qui est vachement intéressant en fait, c'est que la DISIC dit je ne sais pas calculer et donc au final on dit il y a un avantage à utiliser du libre et tout ça, mais au final on est dans une situation où l'État ne sait même pas, n'est pas en mesure de faire la comparaison. Et du coup, ça fait peut-être aussi réfléchir là-dessus en disant on fait ça, mais.
Ah, il faut des points de mesure.
Et
clairement.
Si on mesure, peut-être qu'on va se rendre compte, et moi j'y crois bien sûr, qu'au final il y a effectivement des gains très importants.
Probablement.
Et qu'aujourd'hui on ne sait même pas les évaluer. ZDNet France, Free, Orange débouté de sa plainte pour violation de brevet, un article de la rédaction.
Alors moi, j'ai découvert ça en faisant la revue de presse, j'avais pas suivi le sujet, mais c'est une nouvelle grandiose. Il semblerait qu'Orange attaquait Free, le fournisseur d'accès, parce qu'il le fournissait à l'aide de ses Freebox, notamment les Freebox Révolution, des fonctionnalités que lui se targuait d'avoir inventées. Oui, monsieur,
et
moi...
Ils avaient mis des brevets dessus.
Et ils avaient non seulement targué d'être inventés, mais ils avaient dit, nous on a des brevets sur ces inventions, sur ces logiciels, et ils ont attaqué Free, et ils ont fait chier. Ils ont envoyé des huissiers pour aller chez les gens, piquer des boîtes et constater qu'il y avait eu infraction des brevets.
Ouais, en plus ça, c'est chez des vrais gens, c'est-à-dire qu'ils sont...
Alors, il semblerait qu'en fin de compte, ils n'ont pas piqué les boîtes, ils ont juste été sur place pour constater qu'il y avait des logiciels qui enfreignaient les brevets.
On les disait, ils auraient pu prendre un abonnement et faire ça à la maison.
Non, monsieur, parce que le brevet logiciel te permet de faire ça.
Voilà. Donc, en disant que c'était un peu bourrin... Ouais. Et alors, ce qui est très important, c'est qu'en Europe, en théorie, le brevet logiciel n'est pas autorisé, sauf dans un cas très particulier où le logiciel serait une composante
D'un système l'OEB,
matériel complet.
D'après l'Office européen des brevets, c'est ce qu'ils veulent.
C'est très, très ambigu.
Parce que eux, ça leur permet de gagner beaucoup de fric. Il y a plein de brevets logiciels qu'ils ont enregistrés, ça leur gagne énormément d'argent. Mais non, légalement, ils n'ont pas le droit. Le logiciel n'est pas profitable.
Alors, ils n'ont pas le droit, sauf que l'OEB accorde des tas de brevets.
Mais
et donc, il y a des tas d'entreprises, alors même que c'est illégal, qui prennent des tas de brevets et l'EEB encaisse l'argent et dit oui, vous avez des brevets. Et donc là, le tribunal, ce qui est intéressant.
Tribunal de grande instance, ce n'est pas rien.
A jugé vraiment sur ce point-là, sur cette question de la légalité du brevet en Europe, et en disant non.
Ils ont envoyé chier Orange, en gros. Hein. Franchement, là, ils ont juste dit votre brevet, il est nul, parce qu'en plus de ça, c'était pas une invention originale de votre part. Et en plus de ça, les brevets logiciels, on n'a pas le droit de prendre des brevets logiciels.
Voilà.
Bravo.
Donc c'est une bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle. On espère que l'Office européen des brevets va écouter ça et qu'ils vont arrêter de
tant
prendre
que c'est
de l'argent.
Rentable, je pense pas qu'ils changent leur fusil d'épaule.
En tout cas, c'est un des gros dossiers à l'April. Hein, on essaie de défendre contre ça. Donc on en parlera sûrement sur d'autres sujets. Mais ce sujet-là, on va peut-être passer à autre chose maintenant.
Très bien, on a fait le tour.
On a fait le tour, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.